Nzamba.
Nzambira samirana.
Nous sommes samedi 18 septembre 2021, c'est l'heure du journal sur la radio Inzamba Gatikakawe. Tout d'abord, les titres. Le président Évariste Ndayishimiye va participer à l'Assemblée générale de l'ONU qui démarre lundi prochain à New York. Mais ce voyage interroge sur bien des plans. D'abord sur la délégation visiblement très réduite, ensuite sur la vaccination du chef de l'État et ceux qui l'accompagnent, car les États-Unis soumettent aux voyageurs à l'obligation d'être vaccinés. Le directeur communal de l'enseignement de Mutaro en province de Gitega est accusé de favoritisme dans le recrutement du personnel enseignant. Les diplômés de l'IPR originaires de cette commune disent qu'ils sont discriminés par le DCE en faveur de ses proches. Les conséquences de la pandémie de Covid-19 semblent n'épargner personne. Dans ce journal, le mini-magazine Au cœur de la société nous plongera dans les difficultés qu'éprouvent les éleveurs de porcs au camp des réfugiés de Bahama. Voilà pour les titres. La présentation est assurée par Josine Kadé. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Le chef de l'État burundais est attendu à New York aux États-Unis ce dimanche. Évariste Ndayishimiye participera à l'Assemblée générale des Nations Unies, une visite qui va durer jusqu'au 26 septembre. Évariste Ndayishimiye est à la tête d'une délégation qualifiée de très réduite. Il se déplace par exemple sans son conseiller principal chargé de la coopération dans ses attributions ou encore son conseiller principal chargé de la communication. Une situation qui est inhabituelle à la présidence de la République du Burundi. Les précisions avec Jean-Marie Ndabashinze.
Selon l'ordre de mission numéro 110/SG/080/2021 tombé dans notre rédaction, VIP 1 et VIP 2 se trouvent successivement à la première et deuxième place de la délégation, ce qui veut dire Évariste Ndayishimiye et Angélique Ndayishimiye d'après les connaisseurs du protocole au sommet de l'État. Une situation inhabituelle se lit tout de même sur cet ordre de mission où on ne trouve ni le conseiller principal ayant la coopération dans ses attributions, ni le conseiller technique qui suit quotidiennement les dossiers en rapport avec les Nations Unies, encore moins le conseiller principal chargé de la communication, comme le faisaient les prédécesseurs d'Évariste Ndayishimiye. Seul Evelyne Utoyi, porte-parole de Ndayishimiye, figure sur cette délégation réduite au strict minimum. D'après nos sources à la présidente de la République, l'explication de ce changement est mitigée. Certains pensent que Évariste Ndayishimiye le ferait pour la bonne gestion, d'autres pensent qu'il n'a plus confiance à ses conseillers qu'il a jugé récemment d'être fainéants, mais une large opinion affirme par contre que les caisses de Donald Chazi seraient presque vides.
À la veille du voyage d'Évariste Ndayishimiye aux États-Unis, d'aucuns se demandent comment lui et sa délégation comptent s'y rendre, alors que nos sources à New York précisent que tout voyageur doit impérativement montrer qu'il est vacciné contre le Covid-19. Ainsi, ce déplacement prouve que de hauts dignitaires se font vacciner en cachette contre le Covid-19, alors que dans le même temps, ce sont eux qui s'opposent à la campagne de vaccination. C'est Maître Vital Chimilimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, qui le dit. Selon lui, cela constitue une grave violation du droit à la santé et à la liberté de mouvement des citoyens. Vital Chimilimana demande aux différentes organisations de sensibiliser les autorités burundaises afin qu'elles enclenchent la vaccination de la population comme dans d'autres pays.
Et ceci contredit la propagande engagée par le gouvernement du Burundi qui prétend que le Covid n'existe pas au Burundi, d'une part, et d'autre part que la vaccination n'est pas une affaire sérieuse, urgente et adaptée pour le Burundi. Nous nous étonnons que le gouvernement du Burundi continue à sacrifier les citoyens parce que cette position ou cette attitude des gouvernants désoriente la population qui se retrouvent en train de douter sur la nécessité, l'utilité et l'urgence de la vaccination, alors que les grands dignitaires, leurs familles ainsi que leurs collaborateurs sont entièrement vaccinés. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que tous les différents groupes d'oppression, notamment les syndicats, les médecins, les confessions religieuses et les organisations de la société civile et la population dans l'ensemble, se lèvent pour demander, pour exiger au gouvernement de mettre en place un programme de vaccination comme le font d'autres pays du monde. C'est ce qui permettra au Burundi de se protéger contre la pandémie, mais aussi d'être libre de mouvement et de se déplacer comme le font les autres. Aujourd'hui, dans plusieurs pays où le niveau de vaccination est vraiment très fort, on est à la phase où on recommence l'organisation des événements de grande envergure qui rassemblent beaucoup de gens sans toutefois être masqués.
La radio Inzamba, à travers le numéro de messagerie WhatsApp du chef de l'État, lui a demandé s'il s'est fait vacciner pour effectuer ce voyage. Il a répondu par un message disant qu'il ne pouvait pas se faire vacciner car il n'y a pas de vaccination en Burundi et qu'il jouit de la protection divine.
Inzamba.
Deux personnes sont mortes ce vendredi dans la province de Muyinga, l'une dans la commune Buhinyuza, l'autre à Giteranyi. La première est tombée dans une fosse qui servait de latrine, tandis que la seconde a été victime d'un mur qui lui est tombé dessus. Diane Ngurunziza nous fait le point.
La première victime est une octogénaire résidant sur la colline de Masaka, zone Masaka, en commune Giteranyi, province de Muyinga. Elle était morte accidentellement vendredi à la suite de l'écroulement des murs de sa maison en réhabilitation, selon les sources administratives en province de Masaka. La seconde est un jeune homme âgé de 24 ans de la colline Kiyange, en commune Buhinyuza, mort asphyxié dans une latrine à la mi-journée d'hier vendredi. Il était descendu dans le fossé d'environ 10 mètres pour récupérer une somme de 268 000 francs burundais qui était tombée dans la latrine. Sur cette même colline, un petit enfant de 4 ans était mort la veille à la suite de l'écroulement du toit familial, à la suite d'une forte pluie mêlée de vents violents tombée dans la soirée de jeudi.
La zone Dunga de la commune Kayogoro fait face à une recrudescence de vols des cultures dans les champs. C'est en province Makamba au sud du pays. Les habitants de cette localité demandent à l'administration de décourager ce comportement avant qu'il ne soit trop tard. Les détails avec Jacob Sivomana.
Les secteurs les plus touchés par ces vols champêtres sont ceux de Kivumba et Rusobu de la zone Dunga, commune Kayogoro, province Makamba. Les sources sur place indiquent que ce sont les cultures de manioc et de bananes qui sont visées. Cet habitant de la localité révèle certaines personnes qui ont été victimes de ces vols.
On a volé plusieurs fois chez Feu Mfakubaha Ravan et une grande quantité de manioc chez la veuve Bizimana Dorothée. Pour le cas de la veuve nommée, ces voleurs ont abandonné sur place leur butin composé de manioc. Un autre exemple est celui du sage Philémon dans la vallée de Gwanhebe. Il a trouvé toutes ces bananes récoltées.
Les habitants de la zone Dunga demandent aux autorités administratives de mener les enquêtes pour identifier et arrêter les auteurs.
Les noms de ceux qui sont soupçonnés comme des personnes qualifiées dans de tels comportements sont connus par tout le monde. Même si le voleur est celui qui est attrapé en flagrant délit, nous demandons à l'administration de mener des enquêtes sur ces personnes. Dans les secteurs Kivumba et Rusovu, nous sommes contre ce mauvais comportement qui risque d'atteindre toute la zone, voire toute la commune.
Contacté par téléphone, Antoine Dailagidja, administrateur de la commune Kayogoro, indique qu'il n'est pas au courant de ces vols dans les champs dans sa commune.
Les diplômés de l'Institut pédagogique appliqué originaire de la commune de Mutaro, province de Gitega, s'insurgent contre l'attitude du directeur communal de l'enseignement. Selon eux, ce dernier engage des professeurs vacataires pour servir ses propres intérêts, alors que sur place, il y a des lauréats de l'université qualifiés dans le domaine d'enseignement qui sont sans emploi. au moment de recruter du personnel enseignant, il favoriserait ses proches qui proviennent d'autres provinces. Ces chômeurs demandent la transparence dans le recrutement en priorisant les natifs de la commune de Mutaro. Le point avec Beni Akserakan.
Ces chômeurs lauréats de l'Université du Burundi à l'Institut de la Pédagogie Appliquée, IPA, disent qu'ils ne reçoivent pas de l'emploi à la Direction Communale d'Enseignement de Mutaro. Bazumutima Anatole, le directeur, recrute seulement des professeurs, des vacataires pour ses intérêts personnels, comme l'indique ce chômeur.
Nous sommes désolés du comportement qu'affiche le directeur communal de l'enseignement de la commune de Mutaro, Bazumutima Anatole, qui nous demande s'il est le décès de la commune ou de son sa famille. Le plus étonnant et plus choquant, c'est dans le remplacement du personnel qui a pensionné ou déserté le service. Monsieur Anatole, l'année passée, avait supprimé le profil qui était demandé pour la passation du test de recrutement, le profil qui était anglais, français et technologie, parce qu'on constate qu'il voyait qu'il n'y avait aucun membre de sa famille.
Ce qui est étonnant, Bazumutima Anatole a amené sa nièce en provenance de la commune Gyogazi de la province Karusi pour lui accorder un emploi dans sa direction alors qu'il y a des chômeurs dans cette commune ayant terminé l'université du Burundi.
Cette année, dans le personnel de remplacement, nous avons trouvé une certaine de Ouest-Espérance, native, commune Gyogazi, province Karusi, où nous avons trouvé que c'est vraiment sa nièce, où elle a proposé à remplacer un enseignant qui travaillait au lycée des amis du church de Mutaro.
Le directeur communal de l'enseignement à Mutaro, Bazumutima Anatole, oriente ses chômeurs à adresser une lettre de demande d'emploi au ministère d'Éducation où se fait le recrutement.
Ce n'est pas la tâche de la direction de l'enseignement. C'est le ministère de l'Éducation qui s'en charge. Il connaît les profils recherchés. Nous, on ne fait qu'exprimer nos besoins au niveau communal. Et puis, le ministre décide de ce qu'il est à privilégier. Alors, ces chômeurs qui se sentent lésés n'ont qu'à s'adresser au ministère de l'Éducation pour faire recours. Nous, à la direction communale, on a terminé notre mission.
Ces chômeurs demandent la transparence dans le recrutement en priorisant les natifs de la commune de Mutaro.
Destruction d'une permanence communale du parti de l'opposition CNL. Cela s'est passé la nuit dernière à Muruta, en province Lumongue, dans le sud du pays. Cela porte à 7 le nombre de permanences du CNL démolies dans cette commune depuis mars de cette année, selon les militants de cette formation politique. Le représentant du CNL au niveau international, Aimé Maguela, dénonce des actes de provocation et pointe du doigt le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les détails avec Josephine Jones Munzimana.
La permanence vandalisée se trouvait sur la colline Guitaza. De son bâtiment, il ne reste que des morceaux de briques et des tôles endommagées. Cette démolition est l'œuvre du parti CNDD-FDD, selon Aimé Maguera, représentant du CNL à l'international.
Je crois que c'est la quatrième fois que cette permanence est victime du mois de la barbarie du système CNDD et de la milice Yvonne de la Cour. Il n'y a rien vraiment qu'on peut récupérer comme matériel qui était sur cette permanence. Ce qui est certain, la milice est venue en force, elle a pris du temps et l'administration a joué un rôle très important.
Toutefois, il appelle les militants du CNL à la retenue.
Ce que nous conseillons à nos militants, c'est rester serein, surtout et ne pas céder à la provocation, parce qu'on sait ce que le CNDD veut, il veut cette provocation pour réprimer à fond, c'est ça en fait.
Contacté par la radio Inzamba pour donner sa version des faits, le responsable du parti présidentiel de Nassim Manela Kidza en province Lumongue balaye d'un revers de main ses accusations.
C'est un pur mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas nos militants qui l'ont vandalisé. Ce sont des malfaiteurs. Si c'était nos militants, ils les auraient pris en photo.
De son côté, l'administrateur de la commune Muruta, Domiti Lenunzwenimana, dit ne pas avoir été informé de la destruction de cette permanence du CNL.
Nous ne sommes pas au courant. Nous n'avons pas de rapport relatif.
Un militant du CNL habitant la colline Guitaza se dit étonné par cette réponse de l'autorité communale. Il habite pourtant à moins de 50 mètres de cette permanence et sa résidence est gardée par les policiers, révèle la même source. Depuis mars dernier, 6 autres permanences du CNL en commune Mouhouta ont été vandalisées par des militants du CNDD-FDD, selon des sources au sein de ce parti. Il s'agit des permanences érigées sur les collines Gakuyo, Kirombwe, Bitwe, Gavaniro, Nyangushwe, Rutungang dans les zones Mouhouta et Gitaza.
Le parti CNDD-FDD a toujours nié sa responsabilité dans ses actes.
Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous parlons des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'élevage des porcs au camp de Mahama au Rwanda. Émile Nibasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idjouya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Les réfugiés burundais de Mahama ont été affectés par les conséquences de la pandémie de la Covid-19, comme tous les habitants du Rwanda. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 18 septembre 2021, Amilcar Niyonkuru, c'est notre invité. C'est un réfugié qui pratique l'élevage des porcs. À la présentation du mini-magazine, c'est Emile Nibasumba. Bienvenue dans cette émission de la synergie des médias. L'élevage des porcs est pratiqué par bon nombre de réfugiés du camp de Mahama, c'est au sud-est du Rwanda. Nous avions visité Amilcar Niyonkuru vers la fin de l'année 2019. La pandémie de coronavirus n'avait pas encore été déclarée. À l'époque, cet éleveur de porc avait du mal à trouver l'alimentation pour sa porcherie. Aujourd'hui, c'est le manque de marché qui préoccupe Amilcar Niyonkuru.
Kuva koroni itera twasubiriye kuronka umuntu aza kutubaza ingurube aze indwi zibiri.
Auparavant, nous avions des clients qui allaient les vendre à Gisenyi ou en RDC, même s'ils nous donnaient peu d'argent. Mais depuis le début de la pandémie, les clients ont disparu. Il y a 2 semaines, un client nous a contactés. Durant toute cette période, depuis la déclaration de la pandémie de coronavirus, il nous disait que c'était très difficile d'avoir accès à la région. À un certain moment, nos clients nous donnaient peu d'argent et nous n'avons pas d'autre choix. Ils nous donnaient 50, 60 ou 70 000 francs pour un porc qui valait 150 000. Même pour un très gros porc, les clients ne pouvaient pas aller au-delà de 70 000 francs. Nous avons subi beaucoup de pertes.
Amilcar Niyonkuru ne s'est pas découragé pour autant.
Je dirais que l'élevage, c'est la passion. Nous ne nous sommes jamais découragés. Aujourd'hui, nous avons d'autres races. C'est la représentante de la maison Shalom qui a donné des porcs d'autres races aux coopératives. Nous en profitons pour faire des croisements avec les porcs locaux. C'est cher. Pour avoir un porcin de race de 25 000 francs, nous devons vendre 2 ou 3 porcelets locaux qui coûtent chacun jusqu'à 12 000 francs. Mais comme nous avons un objectif, nous achetons ces porcelets même si c'est cher.
Amilcar Niyonkuru demande aux autorités habilitées de leur installer un abattoir.
Nous avons eu des clients qui vendent de la viande de porc à Kigali. Ils nous ont demandé de leur apporter de la viande parce qu'ils n'ont pas d'abattoir chez eux. Nous avons alors fait une requête auprès du vétérinaire du secteur et il nous a répondu que ce n'était pas possible si nous n'avons pas d'abattoir reconnu. Mais c'est très cher de construire un abattoir. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui en sont capables de nous ériger un abattoir reconnu.
Le Le camp d'Omahama abritait plus de 45 000 réfugiés burundais jusqu'au 31 août dernier, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et c'est par là que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci aux confrères et aux consoeurs de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance qui ont recueilli les propos de l'éleveur de porc Amilcar Niyonkuru. Vous étiez avec Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
Nous terminons comme tous les samedis par la revue de presse hebdomadaire, c'est avec Blaise Nijimbele.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chers auditeurs à cette revue hebdomadaire de la presse que nous commençons par le volet politique. Comme l'écrit le journal Iwachu, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire a suspendu de ses fonctions Martin Hitimana, administrateur de la commune Nega, en province Kirundo. Le motif, il n'inspire plus confiance à la population suite à son comportement scandaleux, indigne d'un dirigeant. Mais, selon toujours le journal Iwachu, l'administrateur est victime des propos de son enregistrement téléphonique, car il se réjouissait de la nomination à l'étranger d'un des poids lourds du parti au pouvoir à Kirundo. Ce dernier, précise le journal, est très impliqué dans le conflit qui divise le parti CNDD-FDD. Poursuivons cette revue avec SOS Média qui écrit sur les droits de l'homme. L'Organisation des Nations Unies constate que le changement de régime ne traduit pas l'arrêt des violations des droits humains. C'est ce jeudi que la commission d'enquête des Nations Unies a rendu public un nouveau rapport sur le Burundi, le cinquième depuis 2016. Les enquêteurs onusiers note un manque de mesures strictes pour apporter des changements même si Evariste Ndayishimiye promet d'améliorer la situation des droits de l'homme au Burundi. Selon Doudou Diène, président de la commission d'enquête sur le Burundi, il y a de bonnes raisons de rester très préoccupé par la situation désastreuse des droits de l'homme au Burundi. Quittons les droits de l'homme pour parler commerce. Le journal Burundi Echo parle d'incompatibilité entre le commerce et le fonctionnariat. Le commerce se fait par des fonctionnaires qui exercent un quelconque pouvoir public inquiète la population. L'attribution frauduleuse des marchés publics, le conflit entre l'activité privée et le fonctionnariat public sont des conséquences qui en découlent. Le principe d'incompatibilité des fonctionnaires publics avec le commerce devrait être observé dans l'intérêt supérieur de la nation, surtout que la loi interdit à certains d'entrer dans le commerce. Selon Emery Nukuri, expert et enseignant à l'Université du Burundi, certaines catégories de la population doivent choisir entre le business et la fonction publique. Il dit, je cite, « Certains fonctionnaires de l'État ne font que marquer leur présence à leur poste pour s'en aller ensuite vaquer à leurs propres affaires. » Fin de citation. Terminons cette revue de presse par un article de SOS Média qui parle des hauts fonctionnaires, des cadres militaires et policiers, des responsables des églises, des plus nantis en général, qui se font vacciner alors que les autorités burundaises dénigrent le vaccin et refusent aux Burundais de se faire vacciner. Ce jeudi, par exemple, à l'ambassade du Kenya à Bujumbura, des personnes précitées s'y étaient rassemblées pour obtenir la première dose du vaccin Johnson & Johnson. Des gens se demandent pourquoi des hautes autorités se font vacciner alors que les discours tenus au quotidien accordent moins d'importance au vaccin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à cette revue. Blaise Nijimbele, je vous souhaite de passer un bon week-end.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba Gateka Kawe pour la production de ce journal. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.